Oui, maintenant nous allons parler d'un livre qui s'appelait Une planète soumise au dictat du libre-marché, sous-titré La dictature du 2 $, mensonges et manipulations du pouvoir politique et financier, avec son auteur Manon Desruisseaux. Bonjour.
Bonjour.
Moi, je dois dire que premièrement, ça a été une de mes lectures d'avant les fêtes et pendant les fêtes parce que c'est un important ouvrage qui est assez volumineux. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à aller à écrire un livre au titre aussi évocateur que Une planète soumise au dictat du libre-marché.
En fait, c'est l'aboutissement d'une longue implication dans le domaine de l'intervention sociale, tant ici qu'à l'étranger. Alors, j'ai travaillé longtemps pour la fonction publique fédérale un peu, mais surtout provinciale dans ce domaine-là, et puis à l'étranger dans quelques pays, là, en Afrique et un en Amérique du Sud. Alors, c'est vraiment, j'avais besoin de m'arrêter, de faire un bilan, et quand je dis quelques années, là, c'est plus de 20 ans quand même. Alors, de faire un bilan, de m'arrêter et de témoigner sur ce que je pensais, où j'en étais par rapport à ce que je croyais et la foi aussi que j'avais perdue dans le domaine de l'intervention sociale.
OK. J'aimerais que vous commenciez en lisant la citation que j'ai choisie, que vous liriez,
Oui.
parce que je trouve qu'elle pose des questions vraiment importantes qui ont dû ou quand même vous amener aussi à écrire ce livre-là.
D'accord. Resterons-nous passifs devant cette dictature mondialisée du capital? Laisserons-nous le capital poursuivre ce que je qualifierais de capitalisation de la planète, une triple capitalisation. D'abord financière, par la dollarisation de la planète et l'imposition de ce tout-puissant dollar US. Puis la capitalisation des valeurs humaines et sociales, se voyant réduite à la simple et unique possession de ce capital. Finalement, la capitalisation des capitales, ou encore les capitales capitalisées, traduisant le fait que les capitales de chaque pays, véritable centre stratégique financier, se comportent telles des succursales du capital transnational, obéissent et se rapportent au même siège social, Washington. J'ouvre une petite parenthèse pour parler tantôt de l'implication des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, je pense que ça le démontre bien. Alors, je poursuis. Ces succursales ne sont-elles pas le siège de leurs représentants financiers et de leurs politiciens couronnés démocratiquement? En drainant l'ensemble de la vie socio-économique, culturelle et financière des États, ne laisse-t-elle pas à une situation précaire l'arrière-pays, leur sud, également en voie d'appauvrissement?
Oui, dans cet ouvrage dont le titre est si évocateur, vous parlez des rouages de ce qu'on pourrait appeler l'empire du capital et comment il est déterminant dans plusieurs domaines de la vie, en fait, dans tous les domaines de la vie, on pourrait dire.
Oui, en fait.
Est-ce que vous pourriez nous démontrer un peu
Rapidement, en fait, c'est ça qui est l'objet du livre, parce que, bon, vous parliez d'un essai qui est volumineux, mais il reste que le clou sur lequel j'enfonce continuellement, c'est justement cette influence-là du capital qui est déterminante dans nos vies. Alors, déterminante, ça veut dire qu'on peut peut-être plus prétendre à la liberté proclamée. Ça veut dire que le capital, les représentants finalement de cette grande finance internationale, n'ont pas comploté contre les gens, mais se sont tout simplement organisés, ont planifié à une petite équipe pour justement se donner l'objectif de contrôler la planète en l'an 2000. Alors je pense que mission est accomplie. C'est de longue date que ces rouages-là sont en place et que cet objectif-là, il est fixé par les grands ténors, finalement, du capital. Alors, on pense au Rockefeller, puis avant, évidemment, on peut partir seulement des années 30 avec les Rockefeller, mais je disais bien avant. Mais disons que les Rockefeller, les cinq fils, se sont vraiment bien orchestrés, bien organisés pour vraiment donner des mandats clairs au fameux triangle Europe, Japon, États-Unis, pour faire en sorte que les grands dirigeants de ce monde se comportent de la façon dont répondent à leur dictat, se comportent de la façon dont ils voulaient. Alors donc, il y a, et quand on parle aussi comment ils se sont pris, ils ont développé des outils aussi pour ce faire, les États de droit. Alors, je pense qu'il se devait d'avoir des allures démocratiques. Il fallait contrer aussi la montée du socialisme de l'époque. On se devait de mettre en sourdine certains impératifs un peu plus marteaux, puis donner un peu de lest dans certaines politiques sociales. Donc, on a bien consenti. Mais moi, je pense qu'on les a consentis non pas comme une évolution de la société, mais comme stratégie. Le capital devait reculer un peu pour permettre justement de mieux accrocher le poisson. Alors, mieux nous accrocher. Et il l'a fait comment? En développant toute une société de consommation, un individualisme qui est forcené, qui c'est ce qui fait loi de tout. Alors, je pense que le capital a vraiment mis en place les dés qu'il fallait pour justement arriver à avoir une planification de maître et vraiment contrôler cette planète-là.
OK, puis vous parlez aussi des grandes organisations comme la Commission Trilatérale.
Oui,
et
exactement.
De cette organisation-là,
oui, tout
et
à fait.
Et de bien d'autres.
Oui, ben la Trilatérale, elle est importante parce que vraiment, ils ont fait des conférences. C'est là qu'on voit que certaines personnes qui composaient la Trilatérale, c'était la crème de la crème, mais enfin, peut-être pas sur le plan de l'implication sociale, définitivement pas, mais sur le plan des cerveaux, c'était définitivement des gens à haute capacité. Alors, la Trilatérale, les Rockefeller et compagnie avaient le moyen d'aller chercher des gens qui avaient, et on les achetait carrément. Donc, c'était des universitaires, c'était des politiciens, évidemment. Hein, c'est des intermédiaires c'est pour ça que j'appelle le politique et le paravent, finalement, de l'économie, parce que qui mène, dans le fond, c'est l'économie. Et le politique devient la façade pour que le capital, parce que Rockefeller avait bien compris qu'avec tout l'argent qu'il avait à l'époque, il ne pouvait pas gouverner. Ça, c'était une tristesse pour lui. Et maintenant, on se dit que l'évolution, entre guillemets, allô évolution, mais fait que maintenant le capital peut se foutre de la gueule de tout le monde et carrément gouverner au vu au sud de tout le monde. Alors ce qui explique que Bush peut même avoir un deuxième mandat finalement à la limite.
On peut se demander si le politique est prisonnier de ça ou qu'il y collabore tout à fait.
Il collabore, bien sûr qu'il collabore. Je veux dire, s'il collaborait pas, il serait pas là. Alors, les pays, comme je mentionne dans l'ouvrage, il n'y a pas un pays qui n'a pas ses martyrs. Hein? Je pense qu'il y a eu des gens qui, Allende, qu'on pense à Allende facilement, je veux dire, qu'on pense à des Samora Machel, qu'on pense à des Kroma. Je veux dire, chaque pays a eu ses héros, ses victimes, parce qu'ils voulaient appliquer ce que nos grandes chartes et nos vœux pieux édictaient, hein, en termes d'autodétermination des peuples, de non-ingérence, de contrôle de nos ressources et tout le tralala et tout le baratin. Ces gens-là, comme Allende, ont voulu vraiment mettre en pratique nos principes démocratiques. Mais ça faisait pas l'affaire de grosses compagnies multinationales qui ont toujours géré ces pays-là, qu'on pense à la United Fruit ou enfin des grosses compagnies qui étaient dans les pays et c'est elles qui mettaient et qui démettaient finalement les gouvernements en place. C'est elles qui avaient l'armée, c'est elles qui payaient, qu'on pense au Nigeria par exemple, dont on a parlé un petit peu à une autre émission, c'est elles qui paient les armes, c'est elles qui équipent les gouvernements. Donc c'est sûr que les politiciens jouent le jeu de la grande finance, forcément, sinon les politiciens feraient pauvres vieux os, je pense.
Et une des forces du volume, c'est de montrer jusqu'à quel point tout ça colonise notre vie, puis dans différentes dimensions.
Exactement. Alors, c'est pour ça que, à travers cette trame-là, de l'influence déterminante du capital, je voulais aborder certaines thématiques, comme la santé, l'éducation, l'agro-industrie, et puis l'emploi, le domaine de l'emploi, pour montrer comment ces domaines d'activité-là, finalement, se retrouvent à la solde de la grande finance. Alors, comment l'éducation est peut-être pas là pour correspondre au savoir, mais contrôler la santé, ça, je pense que c'est quelque chose qui... Parce que là, on joue sur les cordes sensibles, en plus. Hein. Je veux dire, tout le pouvoir que peut détenir des corporations médicales. Et là, je précise, ce n'est pas tous les médecins hein, qui ne font pas bien leur job, mais ils sont soumis à une déformation, que j'appellerais, par le biais de corporations qui influencent les formations. Alors, quand
on... L'industrie pharmaceutique.
Exactement, l'industrie pharmaceutique, ça, c'est dégueulasse. Enfin, je pense qu'ils s'arrogent des profits exorbitants, ils ont un contrôle, et en plus, c'est qu'un contrôle politique. Parce qu'à travers ça, quand on endort les populations, c'est une forme de contrôle politique.
Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait parler des autres dimensions que le politique qui servent cet empire du capital?
Mon Dieu, juste avant, c'est vrai, là, avant de parler ou avant de passer à d'autres choses aussi, quand on parle de politique, c'est qu'il y a aussi tout le leurre de la démocratie par le biais des systèmes politiques. Alors, ça, dans le livre, j'ai voulu aborder cet aspect-là, comment, quand on parle de démocratie, on pense tout de suite au système politique, au système électoral et tout, que j'ai sur lequel je me suis un petit peu questionnée, parce qu'en fin de compte, je pense pas que c'est par là qu'on applique nos droits démocratiques, parce que ce domaine-là est aussi contrôlé par la haute finance. Et il y a immensément d'argent qui est dépensé en campagne électorale, à des jeux d'alternance, on peut questionner aussi le court terme des partis. Je veux dire, quand un parti est élu pour 4 ans, il n'y a pas une entreprise qui fonctionne à si court terme. C'est quasiment loufoque d'accepter qu'on ait des politiques comme ça, que tout le système de partis comme tel, toute la confrontation qui découle de ça, des adversaires politiques, enfin, c'est tout un système qui était la repenser, parce que c'est pas de la démocratie, c'est beaucoup plus de la confrontation. C'est quand on entend par exemple, bon ben là Martin vient d'entrer minoritaire, ça c'est pas bon, il faut pas vieux os. Ben voyons donc, pourquoi ça prend absolument un gouvernement majoritaire? Pourquoi il faut pas du consensus? Pourquoi il faut pas de la palabre africaine? Pourquoi il faut pas discuter et puis finalement s'entendre sur des consensus? Alors je pense que c'est toute une machine qui prétend finalement la démocratie, mais qui traduit tout simplement là, plus ça va, plus on se rend compte que
c'est un peu l'apparence démocratique.
L'apparence, l'air démocratique, et puis les gens sont pas fous, ils le savent. C'est pour ça qu'il y a un désintérêt total du politique. On entend les jeunes, même chez les plus vieux, les gens sont complètement désillusionnés. On fait des boutades sur les promesses électorales. Enfin, plus personne n'y croit. Puis on a l'impression qu'on continue à voter parce que bon, on nous le propose. Puis on a l'impression qu'il n'y a pas autre chose. Mais tantôt, en tout cas, dans les alternatives, peut-être qu'on pourra voir qu'il n'y a pas autre chose.
Est-ce que vous voulez parler de l'industrie agroalimentaire, ben, puis du rôle des médias dans tout ça?
Oui, ben justement, c'est comme on disait tantôt, là, c'est un autre domaine où est-ce qu'on est très contrôlé quand une industrie est si puissante, dénature des aliments, a le pouvoir de dénaturer, donc d'affecter notre santé. C'est incroyable, on se prétend libre, on se rend compte que l'industrie pharmaceutique nous a d'un côté, l'agro-industrie dénature et nous affaiblit. Hein? Alors, bon, la santé encore par le biais de mon Dieu, j'ai l'impression de faire du coq à l'âne, mais par le biais de médicaments, de comment est-ce qu'on appelle ça, le système immunitaire par les vaccins, les antibiotiques, je veux dire, on nous affaiblit carrément. Donc, on ne peut pas vraiment prétendre finalement à la grande démocratie. Maintenant, d'autres outils que le capital a à sa disposition, ben, c'est les médias. Je veux dire, les grands médias populaires, je veux dire, ils sont à la solde de qui? Ils les contrôlent, ils leur appartiennent dans le fond. Alors qu'on regarde quand est arrivé le 9 septembre, le 11 septembre, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont voulu questionner un peu au-delà là, de... du sensationnalisme de l'événement, qui ont voulu un peu questionner, de dire le pourquoi de l'événement. Quand on est partout, là, une dictature du capital et qu'on impose ses vues et ses, partout, je veux dire, à un moment donné, les gens se rebellent. Et c'est peut-être très légitime et très sain qu'ils peuvent encore se rebeller. Alors donc, les médias, est-ce qu'ils sont là pour donner une information transparente? Qui choisit l'information à donner? Qui décide d'un bulletin d'information? Comment on le traite? Alors tout ça, c'est vraiment un outil important, et les législations. Les législations sont là pour qui et pourquoi? Quand on parle législation, aussi on dit il y a des responsabilités individuelles, mais il y a une responsabilité corporative. Alors, on table à peu près pas sur une responsabilité corporative, parce qu'on dit, ils sont là pour faire de l'argent, et on est dans un système où est-ce que la sacro-sainte religion, c'est de faire de l'argent à n'importe quel prix. Alors, nous, on vient nous dire, non, pas d'euthanasie, non, pas de ci, non, pas de ça, par contre, une entreprise qui pollue... l'agro-industrie qui dénature des aliments qui sont vitaux, c'est des aliments qui sont vitaux pour... Mais non, ça n'a pas l'air à offusquer personne. Je veux dire, on est dans un libre marché, mais c'est leur liberté à eux, mais contre la nôtre, finalement.
Oui, justement, sur notre liberté à nous et sur les gens qui se rebellent, arrive la question des alternatives.
Oui.
Vous montrez dans votre livre que, selon vous, il y a des fausses formes d'opposition, des formes d'opposition qui ne mènent nulle part.
Ben, finalement, oui.
Et d'autres qui pourraient être une façon d'envisager une stratégie de reconquête du pouvoir par la base.
Par la base. En fin de compte, c'est que, dans un premier temps, j'ai appelé ça la gauche muselée. Parce que quand on décrit la situation telle que je l'ai fait, c'est qu'on se dit à un moment donné qui peut représenter une solution. Donc, dans un premier temps, on pense à la gauche partisane, c'est-à-dire celle des partis, qu'on pense à l'UFP, qu'on pense à, bon, Option citoyenne qui est en train présentement là, de se mettre sur pied, la coalition entre les deux et tout, mais qui va ramasser finalement 1,6% de vote. Donc, c'est très faible. Alors, une gauche qui est partisane, celle des partis qui est très faible, et la gauche des associations, celle qu'on appelle la société civile. Mais, je viens de ce domaine-là, de la société civile, et c'est de ça que j'ai été très déçue. Et là encore, je tiens à préciser, comme je le faisais tantôt pour certains médecins, je veux dire, c'est pas tout le monde à l'intérieur de ça là, que je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens qui travaillent de façon très, très acharnée, et ils croient énormément et tout. Mais je dis que dans l'ensemble, c'est pas en favorisant une multiplication d'associations et en plus en les subventionnant. Parce que ces gens-là sont subventionnés par le pouvoir. Donc, vraiment, ils sont attachés d'une certaine façon. Donc, on donne une certaine forme de liberté, parce qu'on est bien en démocratie, on le prétend, donc il faut bien quand même, mais il faut pas aller au-delà d'une certaine limite. Alors, Je pense que c'est pourquoi j'ai appelé que la gauche était muselée. Alors, je pense qu'il peut pas vraiment sortir. Il peut sortir certaines choses, là, des associations, la société civile, ça, j'en conviens. Mais je pense que pour un changement en profondeur, parce que c'est de ça qu'il faut parler maintenant, on n'est plus à l'étape des réformettes, comme dirait Grand Maison, c'est plus cette étape-là. Je pense qu'il faut vraiment, là, prendre le taureau par les cornes, puis avoir un changement en profondeur. C'est nos bases de notre démocratie, là, qui est sapée. Il faut vraiment repenser la machine. Il faut tout repenser et plus juste faire des petites modifications. Là,
comme le veulent les partis de gauche.
Exactement. Et aussi, comme le veulent peut-être certaines associations, il faut aller, le coup de barre, il doit être beaucoup plus important. Et c'est là que vient finalement, comme je crois moins en leur capacité, et aussi, c'est que cette vie associative-là, elle est divisée en clientèle. Et ça, c'est le diviser pour mieux régner. Les hommes d'un côté, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, tout le monde est divisé. Donc, quand vient le temps de traiter un dossier important, quand on veut parler de thématiques, on veut parler de plein emploi, finalement, comme par exemple le plein emploi. Je pense que ça, c'est vraiment la majeure. Quand on est dans les compagnies qui ferment les portes, qui déréglementent, qui s'en vont payer des ouvriers en Indonésie quelques dollars par mois, dans des conditions complètement inacceptables. Alors, je veux dire, je pense que l'emploi est vraiment une thématique très importante. Mais là, c'est tout morcelé. Alors, tout le monde y va en faisant un petit peu sa cote-part, mais si on avait des subventions, des vraies subventions par thématique, et que tout le monde se mettait ensemble, qu'on oublie les femmes, les hommes, les ci, les ça, et que vraiment, tout le monde... Mais c'est dangereux politiquement. Alors, c'est peut-être pas un hasard qu'on ait des politiques de subvention par clientèle. Donc, dans le fond, ce que je dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses à repenser dans notre système, beaucoup, beaucoup de choses à repenser.
Et vous parlez de régionalisation, de décentralisation, de reconquête du pouvoir par la base. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous entrevoyez
cette stratégie
de reconquête?
Quand on parle de on est en pleine mondialisation de l'économie, je dis que c'est celle-là qui prévaut, et donc il faut revenir finalement à Schumacher avec son Small is Beautiful. Je pense que ça, c'est un prérequis. C'est pas à travers une tour de Babel mondiale qu'on va finir par établir des jalons démocratiques. Ça va être dans des États qui ressemble à un État. Déjà que nos États sont très grands, qu'on pense aux États-Unis, qu'on pense au Canada, c'est des États. Il faut qu'on sente un sentiment d'appartenance. Alors, si on veut participer, si on veut se prétendre libre et participer, il faut qu'on sente que le pouvoir est en quelque part, nous est possible. Maintenant, comment il peut être possible? En réduisant les espaces de consensus, dans un premier temps, donc la régionalisation, donner de l'autonomie aux régions, et dans un deuxième temps, si on veut éviter que se reproduisent dans les régions et les municipalités les mêmes vices du pouvoir à une plus grande échelle, parce que ça, c'est ça qui peut risquer d'arriver, hein, je veux dire, on change quatre temps pour une pièce. Alors, à ce moment-là, il faut démocratiser des comme par exemple le capital. Je pense que le capital a trop d'importance dans nos vies. C'est un outil, l'économie. Il est présentement le dieu de l'art, comme je mentionne, le dieu tout-puissant. C'est lui qui règle, qui dicte tout. Je pense qu'il faut remettre l'économie à sa place et il faut arrêter de dire, oui, mais ça crée des emplois. Là, le genre d'emploi que ça crée, le type d'économie que ça fait, ça nous tue à petit feu. Je pense pas que c'est un acquis. Je pense qu'il faut revenir à des bases plus solides, à des valeurs plus humaines et repenser finalement l'économie. Et pour repenser l'économie, il faut peut-être accepter de dire, bon, on a déjà parlé de contrôle des salaires, puis des prix et tout, il faut peut-être contrôler les profits. Dire qu'au-delà d'un certain profit, c'est du vol, hein? Est-ce que ça peut être vrai qu'en démocratie, on fait des millions par année? Est-ce que c'est démocratique, ça? Et si c'est démocratique, je pense que là, il faudrait se poser des questions. Alors, les écarts importants qui se creusent, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, est-ce que ça, c'est démocratique aussi? Alors, comment on peut s'en aller en pleine mondialisation d'une économie qui est meurtrière et qui est dévastatrice, en même temps qu'on se dit démocratique?
Mais dans un système aussi puissant, le capital, les États et tout ce que vous avez nommé, sont liés et on construit leur pouvoir et se maintiennent très bien et mondialisent de plus en plus. Comment penser que les simples citoyens à la base peuvent reconquérir un pouvoir, ne serait-ce qu'un pouvoir régional, ensuite un pouvoir sur l'État lui-même?
Ben,
c'est quand même assez gros.
Oui, oui. Puis vous avez tout à fait raison. C'est une grosse chose. On est arrivé vraiment à une situation qui est planétaire et comme on le disait là, au début de l'émission, on voit le pouvoir finalement des représentants des États-Unis là, parce que c'est la grande finance internationale qui est en arrière de tout ça. Mais je pense que c'est là que peut-être très idéaliste, mais c'est là que les citoyens ont peut-être une part. Premièrement, moi je dis abolissons le système de partis politiques. Dans un premier temps, les gens pourraient, puis moi j'invite certains auditeurs ou auditrices qui sont intéressés à travailler avec moi sur ce genre d'initiative-là. Il y a mon courriel qui est à l'intérieur du livre. Oui, c'est Manon, barre de soulignement, des, trois le chiffre, un ruisseau, comme l'eau qui coule, à commercial@hotmail.com. Alors, s'il y a des gens qui ont des idées, qui veulent travailler avec moi, ça me ferait très plaisir de les lire et de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais je pense que dans un premier temps, la proposition qu'il y a d'une façon concrète, c'est dans un premier temps, il faut abolir les partis politiques. Ça ne dit plus rien à personne. Et il y a de l'argent qui est dépensé là. C'est incroyable. On dit qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'il y a une somme d'argent incroyable qui est littéralement là gaspillée. Alors, je pense que et après, de donner un pouvoir aux régions, par le biais de tables sectorielles. Alors, des gens en région qui pourraient être nommés, on n'a pas besoin nécessairement d'un parti politique pour dire qui est habilité dans une région à parler santé, qui est habilité à parler économie, qui est habilité à parler éducation. Alors, déterminer peut-être par le biais des tables sectorielles des responsables, des coordonnateurs qui seraient nommés par les régions, oui.
Oui, pour finir, parce que faut mettre un terme à l'entrevue.
Oui.
Je posais la question aux gens, finalement, se poser la question comment peut être ou démocratiser le capital. Est-ce que le capital peut être démocratisé?
Mais je pense la question.
Les questions sur lesquelles je laisserai les auditeurs réfléchir.